ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
LGSN.
Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
Ce matin, en lisant Le Devoir, on pouvait lire un article sur dans Le Devoir, donc se prostituer pour survivre au coronavirus. Et je voulais qu'on en parle un peu avec un responsable de l'organisme 2159 qui est à Longueuil. Et on l'a au bout du fil, le porte-parole donc de l'organisme, Jérémy Olivier. Bonjour, Monsieur Olivier.
Bonjour, Madame Saint-Hilaire.
Merci de nous parler ce matin parce que j'imagine que vous avez lu l'article du Devoir vous aussi ce matin. Où on parle, oui. On parle de l'impact de la COVID, notamment sur les jeunes prostituées. Mais avant d'entrer dans le creux du sujet, peut-être expliquer un peu ce que votre organisme fait pour les gens qui vous connaissent pas, là.
Oui, ben nous, on vise à intervenir et auprès des jeunes, particulièrement des jeunes âgés entre 15 à 25 ans, qui sont parmi les plus vulnérables de notre société. On vise à contrer l'itinérance, la délinquance et surtout l'exploitation sexuelle là, à ces jeunes-là. Donc, on offre l'hébergement, l'accompagnement avec des travailleurs sociaux et des activités à ces jeunes-là afin de les encadrer là, pour se reconstruire pour le futur.
OK. Donc, est-ce que selon vous, ce que vous avez pu voir au cours des dernières semaines, est-ce qu'il y a eu une augmentation de la prostitution, notamment chez les jeunes de 15-18 ans?
C'est dur à chiffrer, savoir s'il y a eu une augmentation. Ce qu'on dénote surtout, c'est deux choses. Premièrement, c'est qu'il y a une augmentation du recrutement via les médias sociaux. Il y a moins de contact humain. Les jeunes filles ils étaient déjà beaucoup sur les médias sociaux, mais ils y sont davantage. Et donc, les gens qui cherchent à recruter se promènent sur des réseaux comme TikTok pour essayer de recruter des jeunes filles. Donc, il y a ça. Et l'autre volet, c'est qu'on dénote une augmentation du nombre de filles et de femmes qui cherchent à se désister de leur milieu, à quitter leur milieu, mais malheureusement, les ressources manquent pour les aider.
OK, donc vous manquez de ressources.
Oui, c'était déjà un défi avant la COVID de trouver des hébergements qui conviennent à leur situation. Il faut savoir que c'est une approche qui est très particulière. Donc, souvent, on essaie de les rediriger. Nous, on a de l'hébergement, mais on n'a plus de place présentement, malgré qu'on a des appartements qui sont libres, mais on n'a pas assez de revenus pour les opérer présentement. Donc, on les redirige vers des centres pour femmes victimes de violence, mais ces centres-là priorisent des femmes qui ont des enfants avec raison. On les envoie dans des centres de jeunesse, mais les services sont peut-être moins
adaptés.
Moins adaptés pour ces jeunes filles-là. Donc, nous, on a une expertise, on le fait déjà, mais on a de la place, mais on manque de revenus. Donc, et on a une liste d'attente. On a une liste d'attente de jeunes hommes et de jeunes filles en situation d'exploitation sexuelle qui auraient besoin d'hébergement, mais on manque cruellement de ressources financières.
OK. Donc, c'est ça, quand vous parlez que vous manquez de ressources, c'est notamment au niveau de l'offre d'hébergement, au niveau des travailleuses sociales. Est-ce que ça aussi, vous êtes en pénurie ou si ça va?
Ben, c'est, dans le fond, c'est les ressources financières pour engager ces gens-là. Okay. Il faut savoir que quand on fait les places en hébergement seraient là, mais un suivi d'une jeune fille, là, c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est des heures et des heures d'intervention, d'accompagnement dans des rendez-vous. Quand une jeune fille arrive, elle n'a pas de pièce d'identité, elle n'a pas de revenus, elle n'a pas droit à la PCU, elle n'a pas droit à l'aide sociale parce que son travail n'est pas reconnu. Donc, on parle d'un 2 à 3 mois sans revenus où on doit aller faire les pièces d'identité. Donc, nous, on a le toit, on doit fournir de la nourriture, etc., etc. Donc, c'est extrêmement coûteux pour des organismes de faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'on manque de ressources financières.
Mais si vous n'êtes pas capable de trouver les chiffres, à savoir s'il y a eu plus de jeunes qui sont tombés dans la prostitution ou qui sont restés dans la prostitution, est-ce que selon votre expérience, est-ce que vous êtes quand même capable de voir s'il y a plus de filles, plus de jeunes garçons qui ont eu recours à la prostitution ou même qui ont davantage de problèmes de toxicomanie? Est-ce que, je veux dire, vous êtes sans avoir de chiffres nécessairement, de dire ben il y a une augmentation de 30%, vous êtes quand même capable de voir s'il y a plus d'affluence?
Ben, il y a plus d'activités sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a plus de lieux sécurs où ce genre de services-là peuvent être offerts, des salons de massage, des bars de danseuses, certains hôtels. Donc, les filles qui baignaient là-dedans n'ont plus d'endroits sécurs pour offrir ce genre de services-là. Et puis, elles sont invitées à se rendre chez les clients.
Directement.
Ce sont des lieux à risque. Mm-hmm. Oui, ce sont des lieux à risque pour elles. Bon, elles ont peur de la COVID également, mais se rendre chez les clients, c'est très risqué pour ces jeunes filles-là. Puis, comme je disais tantôt, elles n'ont pas accès à l'aide sociale, la PCU, des choses comme ça. Donc, elles se retrouvent un peu. Puis l'option de faire les médias sociaux, là, en ligne, le webcam, là, on s'expose à une certaine notoriété où on se fait voir là, sur en ligne, ce qui pose un risque également. Donc, c'est pour ça les activités ont peut-être augmenté en ligne, à savoir si le nombre de jeunes filles qui tombent dans les panneaux a augmenté. C'est difficile à dire pour l'instant, mais ce qu'on dénote, c'est vraiment que des jeunes filles, un nombre accru de jeunes filles qui demandent de l'aide, là.
Et le travail des travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, ça consiste en quoi exactement? Est-ce que ils vont davantage, justement, parce que bon, vous faites référence que ça se passe davantage sur le web ou sur TikTok ou d'autres plateformes. Est-ce que les travailleurs, travailleuses sociales sont sur le web ou vont sur le terrain essayer d'aller parler à ces jeunes filles, ces jeunes garçons?
Ben, nous, on travaille en collaboration avec des partenaires qui font du travail de rue. Il y a certains organismes qui sont spécialisés là-dedans, mais il y a le SPAL également, la police de Longueuil, avec qui on collabore beaucoup et qui nous réfère beaucoup de jeunes filles. Donc, nous, on fait pas le travail de rue, mais nous, on va prendre les victimes. On va prendre ceux qui appellent à l'aide ou ceux qui nous sont référés. Donc, c'est un travail où, à partir de là, on va rencontrer la jeune fille, on va l'aider. Puis, comme je disais tantôt, c'est un travail de longue haleine. Au début, on parle de besoins de base, de refaire ses pièces d'identité, d'avoir un toit, des vêtements, de la nourriture. Et par la suite, là, de vivre des succès, de rebâtir l'estime. C'est un travail qui peut prendre un an et demi et plus, là, puis c'est des hauts et des bas. Mais on voit déjà, là, on en accompagne déjà des jeunes filles, là, puis on voit déjà que ça porte des fruits, tout ce travail-là qui demande énormément d'heures et d'investissement.
Est-ce que selon vous, il y a l'augmentation, l'utilisation de la drogue, est-ce que ça a augmenté pendant la pandémie? Est-ce que vous êtes capable d'évaluer ça ou pas du tout?
Non, c'est difficile pour nous, oui, d'évaluer ça. Là. C'est non, il y a pas, on n'est pas capable de quantifier ça présentement.
Ok, parce qu'on nous disait que bon, il y avait certaines personnes qui avaient de la misère à trouver des fournisseurs de drogue durant la pandémie, tout ça. Et est-ce qu'on pouvait trouver sur le marché, c'était pas nécessairement de bonne qualité, là, entre guillemets. Là. Donc, est-ce que ça non plus, vous êtes pas capable d'évaluer ou quoi que ce soit, si nos jeunes sont tombés dans des drogues plus dures ou des drogues plus problématiques ou de la cochonnerie finalement?
Ouais, ben dans les cas que nous on suit, il n'y a pas eu vraiment de situation par rapport à ça, donc c'est dur pour nous de porter un jugement là, sur d'autres situations, là. Mais pour nous, ce volet-là, là, c'est pas sous contrôle, mais il n'y a pas eu de y a pas eu de problème. Okay. Accru.
J'imagine un des défis comme pour vous, comme plusieurs organismes, parce que bon, vous faites référence au fait que vous avez de la difficulté au niveau des ressources financières, parce que là, bon, vous pouvez pas nécessairement faire de campagne de levée de fonds, vous pouvez pas faire. Je pense que vous avez un bal aussi où vous faites des levées de fonds, ça devient problématique. C'est quoi votre stratégie pour aller chercher un peu plus d'argent?
Oui, effectivement, nos levées de fonds ont dû être annulées. Des soupers bénéfices, des choses comme ça, c'est sur pause présentement. Donc, on essaie d'être créatif. Heureusement, les différentes fondations là, qui ont ouvert des fonds spéciaux pendant la COVID, donc on réussit à aller chercher des fonds ici et là, mais ce sont des montants qui nous aident à couvrir nos opérations actuelles où on héberge 8 jeunes présentement. On fait du suivi pour 80 jeunes à l'externe avec nos travailleurs sociaux. Mais si on parle d'ouvrir un deuxième étage qui est là physiquement, mais qui d'ouvrir des chambres, de les rendre accessibles, on parle d'un 200 à 300 000 $ supplémentaires. Donc, on essaie de pallier les jeunes, les services qu'on offre présentement, et on place des demandes ici et là pour essayer de répondre à ce besoin-là au niveau de ces jeunes filles-là. Mais c'est 200 à 300 000 $ donc c'est sûr que c'est un gros défi, mais le besoin est énorme. La police en témoigne. Ce genre d'expertise-là, pour les jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle, il y a peu ou pas d'organismes qui l'ont, mais le 2159, c'est vraiment développé une expertise avec nos travailleurs sociaux au cours des dernières années. Donc, on sent qu'on peut répondre à ce besoin-là, mais on a besoin d'un coup de pouce supplémentaire là, pour répondre à la hausse de la demande actuelle.
Ben, espérons qu'on va répondre à votre appel, parce qu'un jeune qui est échappé à 16 ans, c'est difficile par la suite de la récupérer ou de le récupérer. Donc, je pense que votre travail est fondamental. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci beaucoup. C'était Jérémy Olivier, le porte-parole de l'organisme 2159.